Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la bonne parole de notre Seigneur dans le premier livre des Rois, au chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 9 un premier texte auquel nous reviendrons d'ailleurs au long de notre prédication. Ces derniers temps, nous avons parlé un petit peu de la construction du temple. Et là, nous nous arrêtons sur un détail, ce qui paraît un détail au moins, mais qui est plus profond que ça. 1 Rois chapitre 7 au verset 9. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions, en pierres de 10 coudées et en pierres de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. Voilà, et nous arrêtons là pour l'instant. Excusez-moi, nous avançons encore un petit peu. Encore un verset. La grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Et maintenant, je lis dans l'épître de Pierre. La première, l'Épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Cette pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Voilà donc, nous revenons à notre passage du premier livre des Rois au chapitre 7. Et il est question là donc de ces pierres qui ont servi à la construction du temple, et puis aussi à la maison du roi, puis à la maison de la forêt du Liban. Et voyons qu'elles sont décrites avec beaucoup de soin. D'ailleurs, il nous en est parlé depuis le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 de ce premier livre des Rois. Et c'est Salomon lui-même qui avait donné les ordres au sujet de ces pierres. Et c'est le Seigneur lui-même qui, aujourd'hui, dans ses ordres au sujet des pierres vivantes, c'est-à-dire de nous, que nous sommes, si nous avons reçu le Seigneur, eh bien lui donne ses ordres aussi pour que nous puissions aussi chacun trouver notre place dans cette construction céleste que Dieu est en train d'édifier, celle dont il est l'architecte et le constructeur. Alors quels sont les 7 caractères de ces pierres qui sont utilisées dans la maison de Dieu, qu'ont-elles à nous apprendre? Remarquez déjà en premier qu'il y en avait de différentes tailles. Mais on remarque aussi que plus elles étaient profondes, plus elles étaient même dans le sol, plus elles étaient près du fondement, et plus aussi elles devaient être grandes. Verset 17, le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Et nous savons jusqu'à aujourd'hui que certaines de ces pierres de fondement qui supportent encore d'ailleurs, la terrasse de l'esplanade du temple, là où vous avez à l'heure actuelle ce qu'on appelle le dôme du rocher ou la mosquée de Mars, eh bien, ces pierres existent encore aujourd'hui, elles sont là. On a découvert en particulier une qui pèse plus de 100 tonnes, qui fait mesure 9 mètres de long, 2 mètres de haut, c'est quelque chose de considérable. Et vous en avez un certain nombre d'autres qui sont de la même taille. C'était les pierres de base, celles qui reposaient directement sur la roche du mont Morija. Déjà, vous aviez ça. Ensuite, au chapitre 7, au verset 10, vous avez autre chose. Les fondements, on arrive au fondement maintenant, parce que ça, c'était encore en dessous du fondement, ce dont je viens de vous parler là. Maintenant, les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Donc là, ce n'étaient déjà plus les pierres de base, supportant l'ensemble de la terrasse, mais c'était les pierres de fondement des bâtiments même. Donc, elles mesuraient 5 et 4 mètres de longueur, ce qui est déjà très important, évidemment, 5 mètres de longueur, 4 mètres, et ça représentait bien sûr une solidité, une taille, un poids tout à fait considérable. Elles étaient cependant, on dit, moins grandes que les premières. Et ensuite, au chapitre 7, au verset 11, au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après les mesures. Donc, c'était les pierres de construction même des bâtiments, et leur taille était plus réduite, à cause des besoins et des configurations des différents bâtiments. Et ceci nous montre quoi ? Ceci nous montre déjà qu'il faut avoir de solides fondements. Jésus-Christ, c'est la pierre de fondement pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église du Dieu vivant et dans la vie de chaque croyant. C'est la pierre d'angle, c'est la pierre de référence, c'est la pierre de départ. Après, dans l'œuvre de Dieu, vous avez eu d'autres grandes pierres de fondement. Hein ? Il est parlé du fondement des apôtres et des prophètes. Donc, lorsque vous avez les écrits des apôtres, hein, ceux du Nouveau Testament en particulier, ou des prophètes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, eh bien là, vous avez de grandes pierres de fondement dont nous avons aussi besoin. Hein, tout ça, c'est à la base. Et puis après, au fur et à mesure, il faut que nous puissions avoir ces bons fondements. Au fur et à mesure, eh bien, il y a aussi d'autres pierres de fondement. Lorsqu'une église se construit, eh bien, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui puissent être quelque part des fondements, parce que les fondements, ça sert à porter les charges. Hein. Ça sert à porter, à stabiliser ce qui va être construit dessus et qui représente évidemment aussi une masse considérable. Et puis, dans notre vie chrétienne à chacun, il est important aussi que nous puissions être de cela pour que le Seigneur puisse, là aussi, mettre dans nos vies le plus possible de bénédictions et en même temps aussi de responsabilités. Hein, parce que les choses, on s'aperçoit, vont ensemble lorsqu'elles sont assumées ou assurées. Et voilà, donc dans l'Assemblée également, eh bien, ceux qui ont les responsabilités les plus lourdes, concernant spécialement le fardeau des âmes, eh bien, sont aussi des pierres de fondement. Amen. Et puis ensuite, une deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est que même les pierres de fondement devaient être parfaites. Hein, dans le chapitre 5, au verset 17, « Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour le fondement de la maison. » Pourtant, elles étaient destinées à être hors de vue, ces pierres-là. Hein, ben, pourquoi fallait-il qu'elles soient ainsi parfaites ? On aurait pu en prendre, justement, de moins belles, les tailler grossièrement, par exemple. Mais vous savez, Salomon ne travaillait pas seulement pour les hommes. Hein. Salomon travaillait, en fait, en premier pour Dieu. À ce moment-là, en tout cas, il travaillait en premier pour son Dieu. Et à cause de cela, depuis la base du fondement jusqu'au sommet de la corniche de toiture la plus élevée, il fallait que tout soit le plus parfait possible. Voilà. Hein, donc, visible ou non, il ne fallait pas qu'il y ait de défaut. Et vous savez, le Seigneur agit de même aujourd'hui. D'ailleurs, il veut agir de même aussi dans nos propres vies. Nous l'avons dit, la pierre angulaire de fondation, c'est Christ, donc cette pierre choisie, précieuse, parfaite devant Dieu. Et il faut aussi que les pierres que ce que nous construisons dessus, eh bien, soient également le plus parfait possible, hein, avec le secours du Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, « Celui qui est le pain de vie a commencé son ministère en ayant faim. Celui qui est la source d'eau vive a terminé son ministère en ayant soif. Il a eu faim comme un simple mortel et il a nourri les affamés comme seul Dieu peut le faire. Il a été fatigué et il est notre repos. Il a payé le tribut et il est le roi. Il a été appelé démon, il l'a appelé démon, rappelez-vous ceux qui l'accusaient, et il chassait les démons. Il priait et il est celui qui écoute la prière. Il a pleuré et c'est lui qui sèche nos larmes. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent. Et il opéra le rachat et la rédemption du monde. Il fut emmené comme un agneau à la boucherie, et c'est lui qui est le bon berger, le grand berger. Il est mort, il a donné sa vie, et en mourant, il a vaincu et détruit la mort. Voilà, hein. Et c'est vrai que c'est vraiment lui la pierre de fondement à partir de laquelle toutes les autres doivent se mettre en place. Et si lui a cherché à être parfait, et il a été, dans tous les aspects, même cachés, c'est également cette œuvre de perfection qu'il veut accomplir dans nos vies par sa puissance. Et voilà, c'est, je dirais quelque part, c'est en fait la partie cachée, la partie invisible des autres, de notre vie avec Dieu, qui nécessite effectivement le plus d'efforts, le plus de temps de notre part. Et c'est elle qui fait la véritable sincérité de notre relation avec Dieu, n'est-il pas vrai ? Donc voilà. Ensuite, une troisième chose que nous pouvons remarquer concernant ces pierres, c'est qu'il est marqué qu'elles devaient être sciées toutes, intérieurement et extérieurement. Est-il marqué, hein, chapitre 7, verset 9, « Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement. » Vous savez, la pierre du Liban, elle est dure, elle est calcaire, elle est blanchâtre, elle est sonore. Ça, c'est un spécialiste qui dit cela de cette pierre. Et ça ne devait pas être facile de la scier. Du moins au premier abord. C'est ça qui est assez surprenant. Hein, c'est que cette pierre, en fait, lorsque vous aviez réussi quelque part à scier la pellicule de surface, si j'ose parler, elle devenait beaucoup plus tendre à l'intérieur. Beaucoup plus tendre. Et donc vous pouviez donc modeler ou la couper avec une relative facilité. Mais après, lorsque cette pierre était exposée à l'air, la partie exposée à l'air durcissait. Intéressant, hein ? Et je dirais que ça, c'est intéressant pour nous aussi, parce qu'on peut se dire, mais le travail qu'il y a à faire en moi, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué, jamais je n'y parviendrai, jamais je n'y arriverai. Bon, déjà, on a le secours du Seigneur, hein, première chose, et puis ensuite, le Seigneur nous assure justement qu'il va accomplir son œuvre. Et vous apercevez, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et à ce moment-là, eh bien quelque chose qui paraissait difficile au premier abord, avec le secours du Seigneur, eh bien ça devient beaucoup plus facile. Je dis pas que ça se fait tout seul, hein, nous avons notre part aussi, mais ça devient quand même beaucoup plus facile, et ce qui nous paraissait impossible, avec le secours de Dieu, devient possible. Amen. Hein. Et voilà donc, si nous continuons encore, il nous a expliqué un quatrième, que les pierres qui étaient plus haut, enfin, et celle qui était en haut, devait être taillée d'après les mesures, donc, pour les superstructures. Il est marqué là, au chapitre 7, au verset 11, « Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures. » Donc, c'était les pierres qui étaient visibles, celles-là. C'était les plus petites, enfin relativement, hein, et les plus nombreuses. Et il nous a expliqué qu'elles devaient être taillées exactement à la mesure. Il n'y avait pas de mortier pour jointoyer les pierres, hein. Chaque pierre était taillée au millimètre près. Il faut savoir ça. Hein. Vous ne pouviez pas passer une feuille de papier entre les joints. Hein. C'était fait de telle manière, c'était fait de telle façon que, eh bien, il fallait que ça corresponde exactement avec non seulement les pierres de chaque côté, mais celles du dessus, celles du dessous aussi. Hein. C'était fait comme cela. Et c'est aussi la raison pour laquelle chaque chrétien, hein, qui fait partie du temple de Dieu, du temple céleste de Dieu, il faut qu'il se laisse aussi modeler par le Seigneur et modeler par la parole du Seigneur. Il faut que nous ayons à cœur d'obéir complètement à la parole de Dieu, pas seulement approximativement, pour dire à peu près, ça va aller. Non, avec le secours de Dieu, eh bien, ayons à cœur d'obéir à toute la parole. Et si nous obéissons à toute la parole, nous verrons toutes les promesses du Seigneur se réaliser. Verront le Seigneur se glorifier aussi fidèlement. Amen. Et non seulement cela, mais ces pierres devaient être pas seulement taillées, mais polies même, parce que soigneusement polies. Hein, c'est la traduction littérale de l'hébreu original dans le chapitre 5 au verset 18. Les ouvriers de Salomon, ceux d'Hiram et les Gibliens les taillèrent. Là, littéralement, le mot littéral, c'est les polir. Ça veut dire qu'il ne devait pas rester la moindre bosse. Hein. Ne pas rester la moindre imperfection. Et c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être l'impression parfois que la parole de Dieu, elle passe le papier de verre un petit peu fort. Hein. Mais, c'est nécessaire. Vous savez, quand le grand Salomon, avec ses inspecteurs, passait sur les chantiers dans les carrières du Liban, eh bien, ils inspectaient ces pierres qui étaient prêtes à partir pour Jérusalem. Et s'il y en avait avec des failles, s'il y en avait avec des bosses, ou qui n'étaient pas, justement, polies, alors il ordonnait de les laisser là, jusqu'à ce qu'elles répondent aux exigences et aux normes qu'il y avait. Et de la même façon, l'Écriture nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est très très clair. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'avec le secours de Dieu, nous ayons à cœur d'obéir pleinement à notre Seigneur. Amen. Si je poursuis encore, eh bien je m'aperçois qu'il est marqué une sixième chose, c'est que ces pierres devaient être unies et appareillées avant d'être mises en place. Dans le chapitre 6 au verset 7, il est marqué, donc c'est un peu plus loin ça, « Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. » Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant que l'on construisait. Hein? Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait que les pierres soient à la mesure exacte, voyez-vous, parce qu'elles étaient préparées et il fallait qu'elles rentrent exactement à l'endroit, toc. Et la suivante exactement à l'endroit aussi, toc, comme ça. C'est comme ça que ça devait se faire et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Et vous savez, dans le ciel, c'est pareil. Hein. C'est pas quand on arrivera dans le ciel qu'il faut commencer à aimer ses frères et sœurs. Hein? Non, c'est pas seulement là qu'il faut commencer à se supporter les uns les autres avec amour. Vous savez, quand la Bible dit qu'on doit se supporter les uns les autres avec amour, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est pas toujours facile. C'est ça que ça veut dire. Hein? Mais quand même, nous sommes invités à le faire. Ben, là-haut, l'œuvre qui continuera à se faire tiendra essentiellement compte de ce que nous faisons maintenant. Voyez-vous? C'est important. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour la gloire et en demandant au Seigneur particulièrement l'amour pour son nom, pour les frères et sœurs, pour les perdus. Et donc c'est l'amour divin qui nous permet d'être vraiment assis dans les lieux célestes et dans une union bénie, une union céleste. On raconte l'histoire de cette scène de ménage. Vous avez déjà connu une scène de ménage? Ceux qui sont mariés là. Bon, je n'insiste pas. Donc voilà, en plein milieu d'une formidable scène de ménage, le père quitte d'un bond la table familiale, il prend deux feuilles de papier, en tend une à sa femme et lui dit « Faisons chacun la liste de ce qui nous déplaît chez l'autre. » Voilà. La maman se met tout de suite à l'ouvrage pendant que papa l'observe. Et chaque fois qu'elle s'arrête, hop, il écrit à son tour. Alors, et quand elle le voit écrire, hop, elle écrit aussi une nouvelle phrase. « Échangeons nos réquisitoires, » dit-elle quand elle a fini. Mais à peine a-t-elle jeté un coup d'œil sur la liste de papa qu'elle demande suppliante. « Rends-moi la mienne, s'il te plaît, rends-moi la mienne. » Vous savez pourquoi? Parce que du haut, en bas de la page, elle a pu lire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Voyez-vous? Alors elle a voulu qu'elle lui rende sa feuille. Voilà. Alors, si cet amour est réel, ben, vous savez, je ne crains pas grand-chose pour ce couple-là, même s'ils se disputent. Hein. Quand on se dispute, ça ne veut pas dire forcément qu'on ne s'aime pas. Hein. Bon, je ne veux pas dire par là qu'il faut encourager les disputes, bien sûr. Hein. Mais cet amour est là et va permettre de garder l'union du couple. Et puis, je dirais que cet amour aussi, eh bien, il permet de garder l'union entre les pierres vivantes que sont les chrétiens d'une assemblée. Amen. Hein. Au début du XXe siècle, dans un asile d'aliénés, il y a quelqu'un, il y a un visiteur qui est venu, il a été étonné de voir qu'il y avait un seul homme qui gardait plusieurs centaines de pensionnaires. Bon, ça se faisait un peu comme ça à l'époque, c'est pas très... Heureusement, les choses se sont améliorées. Mais cet homme-là était tout seul, il était armé seulement d'une petite baguette. Alors le visiteur lui a demandé, mais vous n'avez pas peur que toutes ces personnes qui sont mentalement atteintes ne s'entendent et décident par exemple de vous attaquer à plusieurs? Alors voilà ce qu'a répondu le garde. Il a dit, ces personnes sont ici à cause de leur incapacité à s'entendre entre elles et à travailler en commun. Alors ce n'est pas la seule raison peut-être, mais c'est intéressant à relever quand même. C'est intéressant à relever, hein. Je ne sais pas si un psychiatre est d'accord avec cette chose-là, mais en tout cas, la situation nous montrait bien cela. Et il faut que les pierres vivantes d'une église, eh bien, il faut qu'elles puissent être unies par l'affection et le travail en commun avec ces mêmes objectifs, ces mêmes buts et cette même autorité bénie du Seigneur. Amen. Et puis une sixième chose qu'on voit encore, c'est la dernière, c'est qu'on ne voyait aucune pierre dans le Saint des Saints. Ça aussi, c'est intéressant à relever. Chapitre 6, verset 18, il est marqué « Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. » Le Saint des Saints, c'était le lieu même de la présence de Dieu. Il n'y avait aucune pierre qui apparaissait. Même le bois de cèdre, dont cette pièce était tapissée, n'apparaissait pas, parce qu'il était recouvert d'or pur. Hein. Et donc... Et pour nous aussi, plus nous entrons dans la présence du Seigneur, et plus ces pierres que nous sommes bien, deviennent insignifiantes, disparaissent, pour qu'il n'y ait de place plus que pour le Seigneur, plus que pour lui. Moins pour nos intérêts, plus pour les intérêts du Seigneur et de son œuvre. Moins pour notre gloire, plus pour la sienne. Moins pour notre bien-être, plus pour sa cause et son action. Moins pour nos idées, nos façons de penser, plus pour ses plans. Moins pour nos envies, plus pour ses désirs et sa volonté. Moins pour notre caractère, plus pour les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein, et le fait d'avoir le fruit de l'esprit en abondance dans notre cœur et dans notre vie. Moins pour notre façon de prier à nous, plus à l'image de son enseignement à lui dans la prière et tant de choses encore que le Seigneur accomplit et veut accomplir pour les siens. Alors, frères et sœurs, eh bien, souvenons-nous des enseignements de ces pierres. Rappelons-nous, c'est une différente taille, hein, mais que chacune soit à sa place. Amen. Que chacun et chacune d'entre nous, eh bien, nous puissions être des pierres vivantes dans le temple du Seigneur. Amen. Et puis rappelons-nous que même ce qui est caché, c'est caché des hommes, mais ce n'est pas caché de Dieu. Hein. Dieu voit toutes choses, et donc, voilà, et je dirais que c'est cela aussi qui est quelque part le gage de la perfection dans nos propres vies. Et puis, rappelons-nous, eh bien oui, c'est vrai que spécialement celles qui sont visibles, ben, elles sont taillées d'après des mesures. Les mesures, eh bien, c'est les ordonnances, les commandements, les instructions de la parole de Dieu, hein, qui sont là aussi pour que nous puissions être formés. De plus, eh bien, il faut qu'elles soient unies, qu'elles soient appareillées avant d'être mises en place, hein, c'est-à-dire avant que nous soyons dans ce ciel de gloire. Et puis, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, c'est Dieu justement qui a mis en évidence. Lui seul, lui complètement. Alors béni soit le Seigneur qui nous fortifie pour accomplir cette bonne œuvre, qui agit par son esprit aussi dans nos vies, pour qu'il puisse de plus en plus en être ainsi. Amen. Amen. Te remercions Seigneur et nous croyons encore que c'est vrai, ta parole est puissante et efficace. Quel que soit l'endroit où nous l'ouvrons, nous voyons bien que tu es celui qui parle par son moyen. Tu es celui qui nous indique des choses qui sont précieuses pour nous, qui sont salutaires, qui sont bénéfiques, qui sont véritablement le moyen de répondre de ta part, de répondre puissamment à nos prières en particulier. Et merci de pouvoir encore prier ce soir, de pouvoir encore nous saisir maintenant de toute délivrance et de tout secours que tu veux encore accomplir et réaliser. Sois béni, sois glorifié notre Dieu. Amen, Jésus, alléluia, alléluia. Quelques annonces. Je rappelle la prédication d'évangélisation qui se fait toujours en ligne pour le vendredi soir. Il y a possibilité de distribuer à Chalon donc en boîte aux lettres dans les nouveaux traités donc en boîte aux lettres. On peut s'inscrire pour cela. Je rappelle les cultes de dimanche, le premier à 8h30, le deuxième à 10h45. Là par contre, merci de vous inscrire à l'avance pour y participer. Mercredi prochain, nous avons des baptêmes qui sont prévus à 20h15 ici. Alors, s'il y a des frères qui étaient volontaires pour monter le baptistère et les cabines de baptême le mardi soir, par exemple, ils seraient les bienvenus. Et je vous rappelle qu'il y a un changement horaire dans la nuit de samedi à dimanche. Vous gagnez une heure. Je ne sais pas ce que vous en faites. Soit pour travailler, soit pour dormir, je ne sais pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah.